Une vie, une œuvre, c'est samedi 16h, c'est tout de suite. Yanis Xenakis, Le Résistant, 1921-2001. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui parlait avec les orages. Il est musicien, parti de Roumanie puis installé en Grèce, il fait polytechnique et consacre son mémoire de fin d'études au béton armé. Mais il est aussi un résistant, plusieurs fois emprisonné et une fois blessé pendant les années de guerre. Ingénieur, architecte, il devient compositeur sans renoncer au reste. Militant communiste, pour rester libre, il quitte la Grèce et se réfugie en France, où il travaille avec Le Corbusier et Olivier Messiaen. Il est le premier à utiliser un ordinateur pour composer et imagine toujours sa musique d'après des principes mathématiques et architecturaux. Mais il est aussi un père et un mari, et c'est ce que nous raconte sa fille Maki dans ce documentaire et dans un livre paru cette année. Elle nous fait entendre la voix d'un enthousiaste, de celui qui veille à ce que sa fille fasse bien ses exercices de mathématiques, de celui qui cherche à faire entendre la nature dans la musique, de celui qui parle aux orages et court sous la pluie, celui qui se délecte du son des gouttes qui frappent la toile de la tente et pour qui les cris des manifestants sont une musique qu'il veut écrire. Celui qui a encore dans l'oreille le son des balles traçantes qui zébraient le ciel d'Athènes en guerre. Yanis Xenakis, Le Résistant, 1921-2001, un documentaire de Maki Xenakis et Lionel Quentin.
Je suis sorti de sous terre, où j'étais depuis des années, partagé entre la nécessité intérieure que j'avais de faire de la musique et ne sachant pas très bien quelle musique faire, et l'expérience que j'avais vécue et qui s'imposait à moi d'une manière impérieuse. Et l'expérience que j'avais vécue qui était d'ordre à la fois sonore et sentimental et politique et enfin de destin, destinée, qui ont vécu dans cette en moi pendant de manière anonyme pendant toutes ces années, combien d'années, mettons depuis 40 jusqu'à pendant plus de 10 ans.
Yanis Xenakis, Le Résistant, 1921-2001, par Maki Xenakis. Xenakis veut dire en grec petit étranger. Xénos, étranger, akis, petit, gentil. Mon père sera toujours considéré comme un étranger où qu'il se trouve. En Roumanie, où il naît de parents grecs, en Grèce, qu'il doit fuir en 1947 parce que condamné à mort. En France, où il demeure apatride jusqu'à l'obtention de la nationalité française en 1964 et où il vivra jusqu'à sa mort. D'ailleurs, dans cet entretien avec Jacques Bourgeois réalisé en 1968, mon père semble, dans les premières questions, plus répondre à un interrogatoire de police qu'à un critique musical.
On sait très peu de choses sur la façon dont vous êtes venu à la musique. Vous êtes grec de naissance, n'est-ce pas, et français d'adoption.
Oui.
Bien, vous êtes né en 1922, où cela?
Oui, à Brăila, Roumanie.
En Roumanie, mais vous êtes grec tout de même.
Oui.
De parents.
Oui, oui.
Bien. Et à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la musique?
Oh, je ne sais pas. Je pense que c'est déjà à l'âge de 5 ans.
5 ans. Comment est-ce que ça vous est venu, si j'ose dire?
Je me souviens d'un fait sentimental. C'était ma mère qui m'avait fait cadeau d'une flûte. Un jouet. Et j'étais plein d'admiration devant les sons qu'elle pouvait en tirer. Parce que les sons m'impressionnaient directement, en soi. La sonorité.
Oui.
Le mystère. Et j'ai essayé, je n'ai jamais pu apprendre la flûte, jouer de la flûte d'ailleurs.
Ah bien.
Ça, c'est un souvenir fondamental.
Mon père gardera toute sa vie un souvenir nostalgique et douloureux de sa mère, Fotini, qui meurt en couche lorsqu'il a 5 ans. Lorsque je suis enfant, il me parle souvent d'elle et de son amour pour la musique. Il me raconte aussi cette histoire. Sa mère est assise devant un miroir et semble avoir oublié qu'il joue à ses côtés. Elle brosse ses longs cheveux, puis brusquement, elle pousse un cri terrible qui n'en finit pas et qui résonne dans toute la maison silencieuse. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il revit avec autant de douleur cet instant et qu'il continue à en chercher la signification. Dans cette partition, Aïs pour baryton, percussion et orchestre, créée en 1980, mon père met en exergue un poème d'Homère, décrivant Ulysse pénétrant dans le monde des morts et croyant retrouver sa mère.
Serrer l'âme de ma mère, bien morte dans mes bras. Trois fois je m'élançais, tout mon cœur la voulait. Mais trois fois, d'entre mes mains, telle une ombre ou un songe, elle s'envolait. La détresse devenait plus aiguë dans mon cœur.
De ses carnets, datés de 1951, il écrit « Comment introduire la voix, les cris de douleur, les sanglots en musique ?» Après la mort de sa mère, mon père et ses frères seront essentiellement élevés en Roumanie par leur grand-mère et des gouvernantes. Puis il sera envoyé dans une pension en Grèce. Dans cette grande solitude, il est déjà sensible à toutes les musiques qui l'environnent.
Je ne vivais pas dans un monde silencieux. Il y avait de la musique un peu partout, surtout en Roumanie. Il y avait la musique folklorique, il y avait la musique tzigane surtout, qui m'embêtait finalement. Et la radio commençait à faire ses pas importants. Et j'entendais des émissions. Alors, la radio était un autre instrument fantastique à l'époque. On entendait toutes sortes d'émissions d'un peu partout et de la musique qu'on ne pouvait pas écouter, très rare, ainsi de suite. Donc je baignais dans un climat musical de toute façon. Et puis après, quand j'étais à l'école, En Grèce, j'étais envoyé pour faire mes études secondaires sur une île, Aspetes, près de Hydra. Et bien là, j'ai rencontré la musique sous une forme beaucoup plus dense. Nous avions un professeur de musique qui était un remarquable pianiste, d'origine suisse d'ailleurs. Et pendant l'étude, le soir, il jouait du Bach pour son plaisir. Alors ça résonnait dans tout le bâtiment, qui était très sonore parce qu'il était moderne. Et je ne pouvais plus travailler. Il n'y avait que ça qui comptait. Actuellement, j'étais très mauvais en solfège, en tout.
Épris d'absolu et déjà capable d'un grand pouvoir de concentration, il se découvre une soif insatiable de connaissances, notamment pour la littérature, la philosophie, l'astronomie, l'archéologie, l'art et les sciences.
J'étais intéressé par toutes sortes de choses. Je me souviens, je lisais dans la bibliothèque de l'école, du lycée, l'astronomie de Flammarion, la nuit, tout seul j'étais d'ailleurs, entre autres. Et puis, l'un conduisait à l'autre, puisque finalement, il y a tellement de ramifications partout qui se rejoignent. Alors, pourquoi les sciences avec l'art, par exemple? Je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais j'étais sordement conscient de ça. Parce que peut-être j'avais une connaissance, j'apprenais de plus en plus une période de l'histoire, qui était celle de l'Antiquité, surtout de la période attique, où, en lisant Platon et d'autres philosophes, où les questions étaient amalgamées. Il n'y avait pas de distinction formelle entre les mathématiques, les sciences, l'art, la société.
En 1938, mon père, Yanis Xenakis, s'inscrit à l'École polytechnique d'Athènes et prend des cours particuliers de musique. Il continue à développer une autre des grandes passions de sa vie, qui demeurera toujours présente dans son œuvre, la nature. Mais il se sent toujours différent du monde qui l'entoure.
C'est vrai aussi que, étant donné une enfance qui était assez pénible et assez malheureuse, je m'étais formé, m'étais construit un monde, un univers dont le modèle se trouvait dans l'Antiquité, à tel point que je pensais être né trop tard, de 20 siècles trop tard, 25 siècles trop tard.
En 1940, Mussolini tente d'envahir la Grèce sans succès. Mais en 1941, Hitler y parvient. L'Allemagne récupère tout le blé et les vivres. Les Grecs sont affamés. Les morts jonchent les rues d'Athènes. Mon père s'engage de manière active dans la résistance communiste. Il est fait plusieurs fois prisonnier.
Quand je me suis mis à faire de la résistance, c'était en partant surtout de Platon pour le changement de la société. Et c'est comme ça que je suis tombé d'ailleurs aussi sur le marxisme, qu'au début je pensais être une sorte de déformation du platonisme. Il y avait beaucoup de points communs, avec un langage qui était différent, mais les idées et les perspectives se ressemblait jusqu'à un certain point d'une manière étrange.
En 1944, les Allemands évacuent la Grèce et Churchill, se méfiant des communistes, signe en secret avec Staline le pacte des Balkans qui attribue la Grèce aux Anglais. Les communistes refusent de déposer les armes. C'est le début d'une guerre civile sanglante. L'armée britannique envahit Athènes. Le 1er janvier 1945, mon père reçoit un éclat d'obus qui lui détruit une partie du visage. Il sort de l'hôpital 3 mois plus tard et entre dans la clandestinité. Risquant d'être envoyé dans les camps de concentration des îles grecques, il s'enfuit, fin 1947, caché dans la soute d'un bateau vers la France, son diplôme d'ingénieur en poche. Il est alors condamné à mort par contumace. Il ne pourra retourner en Grèce que 27 ans plus tard.
Finalement, devant la situation désespérée de la Grèce à cause des interventions étrangères, à cause de la situation aussi interne, j'ai décidé de ne faire que de la musique. Non, j'ai décidé de quitter la Grèce parce que je ne pouvais plus vivre dans la liberté. Il fallait que, pour accomplir toutes ces tâches de front, je m'étais imposé par intérêt. Et j'ai voulu aller aux États-Unis, où je pensais qu'il était possible, pas du tout en Russie, c'est ça qui est intéressant. Oui, je pensais qu'il était possible de mener de front toutes ces choses-là dans une université, je pensais même à l'MIT. Et puis, sur le chemin, je me suis arrêté à Paris, puis je n'ai plus bougé.
Nuit, créée en 1968, porte cette dédicace.
Pour vous, obscur détenu politique, Narciso Julian, Costa Filinis, Eléria Triadou, Joachim Amaro, et pour vous, milliers d'oubliés dont les noms mêmes sont perdus.
Arrivé à Paris, il cherche du travail. Il apprend qu'un architecte a besoin d'un ingénieur et qu'il accepte les réfugiés politiques en situation précaire. Cet architecte est Le Corbusier. Mon père n'en a jamais entendu parler.
J'ai aussi rencontré Le Corbusier, avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans sur des projets. C'est comme ça que j'ai appris l'architecture. J'ai appris à aimer l'architecture, parce que l'architecture, en dehors de l'architecture antique,
n'existait pas. Mais sa façon d'aborder les problèmes et son esprit créateur, c'est plutôt ça qui a été un point de départ pour mes rapports avec l'architecture et pour tout ce que j'ai fait par la suite. Et c'était ce qui était intéressant, c'est que je trouvais dans son attitude envers l'architecture le type d'attitude qu'il me fallait et que j'avais d'ailleurs dans le domaine de la musique.
À l'école normale de musique, mais sa musique ne suivant déjà pas les règles imposées par l'époque, il est rejeté par les professeurs. Découragé, il finit par frapper à la porte d'Olivier Messiaen, qui lui dit
« Là, j'ai fait une chose horrible, extraordinaire, que je ne ferai pas avec d'autres. Je lui ai dit « Vous avez déjà 30 ans, vous avez la chance d'être grec, d'avoir fait des mathématiques et de l'architecture. » Profitez de ces choses-là et faites-les dans votre musique.
Quand tu as rencontré papa la première fois ou les premières fois, qu'est-ce qui t'a frappé chez lui ?
Il m'a impressionné d'emblée.
Françoise Xenakis, écrivain.
Son physique, sa blessure. Je ne connaissais pas ça. J'étais une gamine de 20 ans qui ne savait rien. Et qui n'avait pas une vie très, très, très intéressante. Et je me suis très vite rendu compte qu'avec cet homme-là, les choses étaient plus vraies, plus fortes. Qu'il n'y avait pas de... Tout était d'une simplicité. J'ai complètement changé près de lui parce que je me suis rendu compte que la vie était, avec lui, presque plus simple, plus rigide, mais il m'a rendu honnête. Je pouvais tricher et j'aurais continué à tricher si, mais j'avais jamais rencontré un homme qui se racontait peu, mais son visage parlait pour lui, et sa blessure qui était très, à cette époque-là, très visible. Et j'ai été très impressionnée par son courage à vivre, par sa pauvreté assumée et sans en faire un schtroumpf. Ça n'avait aucune importance. L'essentiel, c'était de s'en sortir par le travail, par la création, par tout ça. Et c'était une découverte pour moi.
Tu sentais une force en lui ?
Une force en lui que je n'avais jamais connue, avec personne.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
vie commence à se construire avec des repères plus stables. Il travaille chaque jour chez Le Corbusier et consacre une partie de ses nuits à sa musique, tout en suivant, quand il le peut, les cours de Messiaen, qui le sensibilise à la question du rythme et qui lui fait découvrir les musiques extra-européennes. Il s'attelle à sa première œuvre aboutie, basée sur des lois mathématiques, qu'il nomme Zia. Il est à la recherche d'une musique proche de l'archaïsme et de la musique folklorique de son enfance. Cette musique, encore très bartokienne, semble à des années-lumière de sa musique à venir. Pourtant, tout est en train de se mettre en place de manière souterraine. Cette œuvre, qu'il achève en 1952, plaît énormément à Messiaen, qui l'encourage à aller plus loin.
Et lui, et aussi sa musique, dans ce qu'il faisait, à l'époque il n'était presque pas connu, m'ont montré que ce que je sentais d'une manière obscure était une chose faisable, réalisable, c'est-à-dire de foncer. De foncer par tous les moyens, il n'y a aucune restriction. C'est un chant, la musique et l'art, donc en général, est un chant ouvert. Ouvert à quoi? Ouvert au risque, prendre des risques et essayer d'imaginer des choses et de vivre les choses d'une manière différente, nouvelle, plus pleine.
Pendant ce temps, pour des raisons pourtant diamétralement opposées, Le Corbusier et mon père, Yannis Xenakis, partagent la même fascination pour le monde de l'Antiquité grecque ainsi que pour le nombre d'or. Le Corbusier accepte de plus en plus les propositions formelles que mon père propose et lui confie en 1953 la conception de l'intérieur du couvent de la Tourette. Il y réalise entre autres les pans de verre ondulatoires des façades grâce à la série de Fibonacci qu'il transpose simultanément en rythmes musicaux dans Métastasis. Dans cette œuvre, il invente une nouvelle forme d'écriture musicale et dessine des courbes paraboliques qui retranscrivent dans l'espace et le temps les mouvements de masse sonore des différents instruments de l'orchestre.
Sur le plan alors de ma composition propre, comme appui, je n'avais que cette espèce de base, de fondement qui venait directement du 5e siècle avant l'ère chrétienne, de ce monde philosophique et artistique à la fois qui mettait tout en commun dans un creuset et que j'ai fait insensiblement moi-même puisque je pouvais utiliser les mathématiques tout à coup que j'avais apprises pour en soi et aussi pour construire ou que j'ai utilisé dans l'architecture, tout à coup j'ai trouvé un usage immédiat, presque, dans le domaine de la musique, avec par exemple la combinatoire, et ce qui m'a conduit aussi à partir de là, à traiter les masses que j'avais intuitivement dans mon esprit, à cause des expériences vécues, soit en tant que campeur, parce qu'on donne dans la nature, il y a toutes sortes de sons qui se trouvent partout et sont souvent des sons de masse, que ce soit le bruit de la mer ou le bruit du vent dans les feuilles de pin surtout, ou les cigales ou la pluie sur la tente. Ça, c'est des phénomènes extraordinaires. Les orages avec les déferlements jupitériens et aussi, alors sur tout à fait dans un autre domaine, les formidables manifestations de rue contre l'occupant qui avait lieu à Athènes, ce son qui remplissait les rues, presque toute la ville, se transformait en un chaos formidable de cris chaotiques, de cris de toutes sortes. C'était des événements. Mais profondément, je pensais que ça faisait partie de la musique. Comme les événements visuels pendant les froides nuits de décembre, avec les balles traçantes et les cours raréfiés un peu partout dans toute la ville, qui faisait une sorte déjà de polytope de guerre, n'est-ce pas, ou les bombardements de terrains d'aviation qui étaient aussi des spectacles extraordinaires à la fois. Mais je ne les pensais pas du tout comme des éléments musicaux qui pouvaient être. C'est seulement beaucoup plus tard que ces choses-là ont surgi, ont émergé, et ça a donné Métastasis.
Moi, j'étais complètement étonné, vraiment.
Georges Apergis, compositeur.
Par la naissance de cette musique, qui est plutôt d'une, je dirais, d'une architecture musicale, d'une architecture de son, qui n'existait pas avant. C'était une création que Xenakis a faite avec cette façon d'imaginer la musique autrement. Et qui était absolument surprenante, à tel point d'ailleurs qu'une grande partie de ce qu'on appelle les mélomanes étaient surpris, déroutés, leur confort, d'écoute avait été perturbé, parce que c'est une musique très demandeuse par rapport à un public, et aussi une musique qui est de l'énergie pure, donc qui ne s'écoute pas en fond sonore, quoi, si vous voulez. Et évidemment, dans les concerts, c'était souvent une surprise totale d'écouter cette musique-là. Alors, moi, c'est ça qui m'a attiré et qui m'a fait dépasser ma timidité naturelle pour arriver jusqu'à lui, parce que c'était quelque chose qui était absolument inouï à l'époque, quoi. Et les gens l'ont pris comme tel, c'est-à-dire que les gens qui ont aimé cette musique, ils l'ont aimé parce qu'elle ressemblait à rien et qu'elle racontait quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose de très ancien, très, très archaïque, très, très terrien, qui était une musique à la fois liée à la nature et puis à l'homme. Voilà, c'était une musique autour de l'homme.
Pendant longtemps, comme beaucoup de ceux ayant vécu les événements tragiques de la guerre, il disait refuser le pathos dans son art et expliquer sa musique par des équations mathématiques, provoquant ainsi amusement ou incompréhension auprès du public qui en concluait que sa musique était dénuée d'émotion. Je ne dis pas que les mathématiques étaient secondaires pour lui. Je suis bien placée pour savoir que c'était fondamental. Puisque pendant des années, il me poursuivait en courant dans notre appartement pour que nous fassions ce qu'il appelait « mes mathématiques ». Mais suivant le modèle de l'Antiquité grecque, où tout est nombre, dont la musique, et ayant lui-même de grandes facilités à les appliquer, il les utilisait comme un formidable outil qui lui permettait de construire des structures musicales encore bien plus riches et complexes, n'hésitant pas, dès les années 60, à être le premier à utiliser les capacités des ordinateurs pour construire sa musique.
Monsieur Xenakis, votre exposé à la salle Guimet était particulièrement dense. Voulez-vous préciser pour nos auditeurs quelques notions un peu difficiles pour qui n'est pas familier avec les récentes perspectives des sciences humaines, telles que la logique stochastique ?
Eh bien, la causalité classique, dans le sens le plus général, est la répétition d'un couple d'événements s'effectuant toujours dans le même ordre. Si A est le premier événement et B le deuxième, l'axiome de la causalité implique que chaque fois qu'existe A, B le suit. Ainsi, la causalité signifie une suite infinie de couples A-B, schème fondamental des sciences expérimentales. Si nous voulons, avec les sciences contemporaines, généraliser l'axiome de la causalité, nous pouvons le faire de la manière suivante. Après le terme A, il peut venir le terme B, ou un autre terme C, ou toutes sortes de termes D, E, F, G, etc., dans une suite finie d'expériences. Voilà donc la généralisation du principe de causalité, qui, en logique moderne, s'appelle polyvalence. Si maintenant les suites finies d'expériences, en devenant très nombreuses, tendent vers des fréquences relatives constantes, d'avènement des termes B ou C ou D, etc., la suite tend vers un équilibre, un but, en grec un stokos, d'où le sens du mot stochastique qui implique la notion et le calcul des probabilités, d'où les processus en chaîne du type markovien.
Je vois déjà un peu plus clair dans votre façon de penser, mais je crois qu'un peu de musique ne serait pas sans utilité pour vous éclairer.
Parallèlement à son travail musical, dès 1954, Le Corbusier lui propose de concevoir une forme simple pour le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles, inaugurée en 1958. Mon père pense aux partitions graphiques de Métastasis, aux surfaces réglées des glissandis de cordes, et en quelques semaines transpose ces masses sonores qui circulent dans le temps en surfaces réglées qui se construisent dans l'espace. Lorsqu'il soumet à Le Corbusier ce changement radical, celui-ci l'accepte avec enthousiasme.
Le pavillon Philips, ça représente pour moi un moment extrêmement important dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de la pensée de ce que j'appellerais un peu wagnérien, mais quand même le Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale.
Antoine Grimbach, architecte.
Ça, c'est vraiment intéressant, puisque c'est une pensée où il y a un travail sur l'espace, le pavillon Philips, un travail sur la musique, puisque ça devait accueillir Varèse et un morceau que Xenakis avait composé, et puis les images. Et c'est vraiment, il le reprend après dans les polytopes et tout, c'est vraiment un moment historique de cette espèce de fusion du savoir constructif, du savoir de ce que c'est que l'espace, de ce que c'est que le mouvement, parce que c'était fait pour que les gens se promènent, donc on est complètement dans l'art contemporain avec les installations où la musique, l'espace, la lumière, la promenade, le temps du parcours, tout ça sont utilisés dans une œuvre totale, et le pavillon Philips en est l'expression. Alors évidemment, le travail sur les formes paraboliques, hyperboliques, sur lequel il a beaucoup écrit et qu'il a beaucoup théorisé, c'est une recherche de l'économie absolue entre le rapport de la masse de matière et les capacités de structure. Et donc les pH hyperboliques en béton préfabriqué sont une expérience qui n'a jamais été reproduite à ma connaissance. Et le chantier était incroyable, puisqu'on a préfabriqué tous les morceaux pour fabriquer cette forme extrêmement complexe en béton. avec chaque moule avait pour arriver à fabriquer. Mais c'est une économie de matière pour un maximum d'espace et un maximum d'organisation de l'espace. Donc il y a vraiment une pensée qui est unique, je crois, au XXe siècle, d'être arrivé à faire cette fusion de l'ensemble des arts.
Pourtant, Le Corbusier décide d'en revendiquer seul la paternité. Mon père se sent trahi, mais son tempérament guerrier l'aide à mener ce combat improbable de parvenir à être finalement cité comme co-auteur. De l'exposition, le pavillon Philips est détruit et le nom de mon père disparaît de nouveau. La relation entre les deux hommes se détériore de plus en plus et finalement, le 31 août 1959, Le Corbusier renvoie mon père par une simple lettre. À partir de cette période, mon père se consacre essentiellement à sa musique, même s'il conçoit ponctuellement des projets d'architecture, notamment le projet de la Cité Cosmique en 1964, le Diatop en 1978, la Cité de la Musique en 1984 ou encore la Tour en Corse en 1997.
L'un de ces travaux architecturaux, c'est évidemment quand il y a eu le grand concours pour la Cité de la Musique à la Villette, qui a été gagné par Christian de Porzamparc. Il avait fait un projet absolument pharaonique, extraordinaire, ambitieux, où il y avait un vrai travail sur la cohérence entre l'espace de la musique, l'expression architecturale du bâtiment, quelque chose qui était vraiment très très fort, et que c'était l'équivalent dans l'ambition de ce qui a été réalisé aujourd'hui par Nouvelle la Philharmonie, mais avec une force d'expression formelle et qui était, c'était une véritable cité de la musique avec tout son travail sur les formes mathématiques complexes et vraiment, bien sûr, sur toute la qualité acoustique qui était extraordinaire. Malheureusement, il n'a pas gagné. Moi, ce que je trouve remarquable et passionnant, c'est que le dernier bâtiment qu'il ait réalisé, c'était à Campo Moro, en Corse, sur un terrain qu'il avait acheté depuis très longtemps et où il allait camper avec toute sa famille et où il a décidé de construire une maison pour sa femme. Et pour lui, enfin, une maison pour sa femme qui était pour lui une façon de raconter son rapport quasi archaïque, quasi dans son amour de l'architecture grecque antique et de la philosophie appliquée à un bâtiment. Alors ce bâtiment, moi je l'ai regardé de sur tous les côtés, et il pose la question du rapport entre une idéalité et la nature. Le bâtiment, c'est une tour elliptique et ça ne veut un sens de dire qu'elle est, c'est pas une tour ronde, c'est une tour elliptique. Or, l'ellipse, en mathématiques, comme vous le savez, il y a deux centres. Et on a toujours dit que les ellipses, c'était le lieu du critique du totalitarisme, parce que quand on met une statue à un des centres, il faut qu'il y en ait un autre de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on peut pas faire comme, je sais pas quoi, la place des Victoires à Paris, où on met la statue de Louis XIV au milieu, la place est ronde et tout. Là, quand on utilise des formes, il y a une tension dans l'espace, rien que, c'est très rare, je ne connais pas d'autres exemples où on ait fait des tours elliptiques pour y faire des maisons. Tout cela est complètement ouvert à la périphérie avec des pans de verre, et la nature pénètre, etc. Et ça, c'est un des grands thèmes de Xenakis, cette espèce d'amour de la nature. Et cet amour de la nature l'avait conduit à articuler son travail sur une espèce de volonté un peu très ambitieuse de pouvoir traduire en musique les bruits de la nature et les bruits de la mer, qui est une réponse à Messiaen, qui lui travaillait sur comment traduire le chant des oiseaux en musique.
Tous les ans, vous partiez un mois en Corse?
Un mois, oui, on partait en Corse. Et moi, je tirais la gueule, je n'ouvrais pas la bouche.
Pour montrer que tu n'étais pas contente de cet
endroit-là. Ah oui, mais c'était vraiment au-delà de mes forces. Hein. Mmh. Mais j'avais au fond de moi quand même conscience que c'était vital pour lui.
Parce qu'en fait, il se nourrissait de la nature,
oui.
Des tempêtes, des orages.
Et puis il était bien, il riait, il courait, il apostrophait le ciel, il parlait beaucoup avec les orages. Il courait comme un fou quand il y avait du tonnerre pour aller... Il bougeait, il cherchait les choses. Et je me souviens très très bien quand il nageait avec toi et il était dans un état de bonheur... C'était très joli quand t'étais ses yeux. Mmh. Tu te souviens?
Pour chercher les poissons, oui.
Oui. Et tu les voyais, les poissons, toi? Mmh.
Ces expériences qu'il vit avec la nature lui donnent envie de plonger le public dans l'espace sonore en le mêlant à l'orchestre. Hermann Scherchen crée ainsi Terrétector au Festival de Royan, organisé par Claude Samuel en 1966.
Disons qu'avec ces architectures qu'il a fait, les architectures sonores, que ce soit dans Métastasis ou Peter Fractal, la première pièce, les sons avaient un devenir, disons qu'ils n'étaient pas immobiles, comme souvent dans la musique, ou qui ne formaient pas de mélodies si jamais les hauteurs de sons changent et bougent, mais c'était des sons qui glissaient vers un autre point, d'un point à un autre, un petit peu comme les architectures ou comme ce qu'il a fait... avant avec le Corbusier. Donc c'était une espèce de traduction architecturale en son, voilà. Et évidemment, ça donnait des résultats absolument inouïs, quoi, et très surprenants. Alors, ces architectures marchaient souvent par grappes, ou par meutes, ou par nuages de sons, comme il disait lui-même, c'est-à-dire que c'était des tout petites gouttelettes, en fait, qui arrivaient à s'additionner, d'une certaine façon, pour arriver à créer ces événements-là qui étaient à la fois proches de la nature et à la fois prenaient parfois un côté absolument tragique. On avait l'impression qu'il se passait des choses absolument incroyables. Un caractère très, très humain, très, très proche d'une certaine souffrance, sans que lui appuie là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été, ce que j'aime beaucoup en fait chez lui, il est plutôt tragique. Il n'est jamais sentimental, il n'est jamais psychologique. Il n'y a pas de psychologie là-dedans. C'est de la musique pure.
La musique de mon père continue à susciter enthousiasme ou incompréhension. Elle est cependant de plus en plus soutenue par certaines personnes influentes du milieu de l'époque qui la programment en Europe, aux États-Unis ou au Japon. La musique contemporaine, largement relayée par les médias, devient populaire.
Par exemple, il y a des pièces, je me souviens, une pièce qui s'appelle Arura. C'est une pièce pour cordes. Où les cordes, à l'époque, on faisait pas ça. C'est-à-dire que les cordes exercent une pression de l'archer sur la corde exagérée, très très forte, pour que ça grince, que la corde soit plus proche du bruit que du son, finalement. Et les musiciens, ils étaient évidemment, ils disaient, mais ça va casser ma corde, ça va...
Ça l'a cassé, d'ailleurs.
Mon violon, oui, voilà. Donc, je me souviens, alors cette pièce, par exemple, qui est une pièce un peu à part, pour moi, elle n'existe pas si on ne la joue pas à fond. Mmh. À fond, comme c'est écrit. C'est-à-dire, si on la joue gentiment, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça raconte. Et souvent, ces pièces, moins les pièces pour orchestre, parce qu'évidemment, dans l'orchestre, il y a les masses qui jouent. Mmh. Mais les pièces plus ou solistes, ou à deux ou à trois, là, on sent que c'est une aventure humaine autant qu'une aventure musicale. Donc s'il n'y a pas les deux à la fois, voilà, on perd la pièce.
Mon père écrit plus de 150 partitions pour instruments et crée à partir de 1967 les Polytopes, spectacles de son et de lumière qui accueillent des milliers de personnes, mêlant souvent musique instrumentale et électronique. Celle-ci est réalisée à partir de l'UPIC, ordinateur qu'il invente, grâce auquel on peut entendre directement les sons que l'on dessine sur un écran tactile. Il y réalise l'œuvre intitulée « La légende d'air » qui sera diffusée lors du nouveau spectacle de son et de lumière dont il conçoit également l'architecture lors de l'ouverture du Centre Pompidou en 1978, le Diatope. Si ses œuvres sont à la pointe de la technologie et de la modernité, le monde de l'Antiquité grecque y demeure présent. Le titre de cette musique, créée pour le Diatope, fait référence au personnage de Platon, Ère, qui décrit ce qu'il a vu dans le monde des morts. Mon père ne parlait pas de la mort en public. Pourtant, avec ma mère, nous la sentions omniprésente dans ses pensées. Il me disait souvent « Nous sommes des météorites, nous allons bientôt disparaître. Il faut absolument utiliser ce court temps de vie pour s'accomplir. » Déjà malade, il écrit en 1997 sa dernière œuvre. Il la nomme Oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. La tour en Corse est réalisée la même année. Étrangement, ces deux œuvres ultimes se rejoignent par leur forme et leur sobriété. Dans Oméga, pour la première fois, mon père ne semble plus utiliser la musique comme arme contre la mort. Il la voit venir, ne peut plus lutter, et tente une dernière fois de l'apprivoiser ou simplement de l'observer. Il meurt le 4 février 2001. Yanis Xenakis, Le Résistant, 1921-2001, par Maki Xenakis. Avec Françoise Xenakis, Antoine Grimbach, Georges Apergis, texte lu par Ulysse Klatzmann et David Klatzmann. Merci à Jean Baronnet et François Delalande. Équipe de réalisation, Pierre Mine, Olivier Dupré et Lionel Quentin. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Documentation INA, Anne-Laure Veil.
Yanis Xenakis, Le Résistant. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Pour continuer, références bibliographiques, podcasts, réécoutes et commentaires sur la page de l'émission, bien entendu sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et la semaine prochaine, nous serons avec Celle qui voulait mourir sur scène, Dalida.